Bonjour à chacun. C'est pour moi une très grande joie de pouvoir célébrer avec vous ce culte de Pâques. Pâques. Hier, nous étions à table avec nos quatre enfants. Et puis, j'ai posé cette question. Qu'est-ce que c'est, Pâques ? Alors, moi, je sais. Alors, bien sûr, j'ai donné la parole à Lucie, la plus petite, en me disant, elle dira déjà ce qu'elle a compris, et puis les autres corrigeront, compléteront, si jamais il le faut. Et là, bien sûr, Lucie, donc 6 ans, emportée par la joie de Pâques, de ce que Pâques représente pour elle, nous dit spontanément, Pâques, c'est les œufs en chocolat. Mais tout de suite, elle se reprend, peut-être en voyant mon visage, elle se reprend et dit, c'est Jésus. Lucie, de ses 6 ans, a déjà bien compris le type de réponse qu'il fallait qu'elle donne pour faire plaisir à son papa. Mais Lucie va grandir. Et ma prière pour elle, c'est qu'en grandissant, Jésus occupe la première place de son cœur, bien avant le chocolat. Et qu'un jour, elle pourra dire, Pâques, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Mais qu'elle dira cela, non pas pour faire plaisir à son père, mais parce que ce sera sa conviction profonde, qu'elle y croira de tout son cœur. Mais croire en la résurrection de Jésus peut parfois s'avérer difficile pour certaines personnes. Et la parole de Dieu ne dissimule pas ces difficultés. Au contraire, elle les met même en lumière de façon à nous aider à les surmonter pour que nous puissions croire également cette formidable nouvelle. Jésus-Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Je vous invite donc à prendre ces petits évangiles ou vos Bibles, si jamais vous préférez, et de les ouvrir à la page 74. Page 74, l'évangile de Luc, et nous commencerons notre lecture au chapitre 23. Chapitre 23 et au verset 44. C'est un moment terrible, affreux. Jésus a été crucifié à 9 heures du matin et notre lecture commence 3 heures plus tard, à midi. Luc 23, 44. C'était déjà presque midi et il y eut des ténèbres sur tout le pays jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Après avoir dit ces paroles, il expira. Voyant ce qui était arrivé, l'officier romain rendit gloire à Dieu en disant, « Certainement, cet homme était juste. » Après avoir vu ce qui était arrivé, tous ceux qui en foule assistaient à ce spectacle repartirent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, ainsi que les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Il y avait un membre du Sanhédrin, du nom de Joseph. Alors le Sanhédrin, c'est une sorte de tribunal suprême juif. Ce sont les membres du Sanhédrin qui ont pris la décision de faire mourir Jésus et qui ont fait pression sur le gouverneur Pilate pour que les autorités romaines autorise son exécution. Verset 51. Joseph n'avait pas été d'accord avec la décision et les actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il alla trouver Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un drap de lin et le déposa dans un tombeau taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation du sabbat. Le sabbat allait commencer. Nous sommes donc un vendredi. Dès la tombée de la nuit, selon la loi juive, plus aucun travail ou déplacement ne pourrait avoir lieu jusqu'au lendemain soir. Si le corps de Jésus n'est pas déposé dans le tombeau avant la nuit, le corps de Jésus sera abandonné aux soldats romains. Il faut donc faire vite, et le manque de temps ne permet pas aux femmes de préparer le corps selon le rituel de l'époque. Verset 55. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph. Elles virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Puis, elles s'en retournèrent et préparèrent des aromates et des parfums. Le jour du sabbat, elles se reposèrent comme la loi le prescrit. Le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin avec quelques autres en apportant les aromates qu'elles avaient préparées. Ce n'est pas un travail facile que les femmes viennent accomplir de si bon matin. Préparer le corps d'un mort n'est jamais facile. Mais ô combien il est douloureux si c'est celui de quelqu'un que vous aimiez et qui en plus est mort jeune, injustement et dans des circonstances affreuses. Elles s'approchent du tombeau et, au verset 2, elles découvrirent que la pierre avait été roulée de devant le tombeau. Elles entrèrent, mais elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur. Mais qu'est-ce que cela peut signifier ? Comme elles ne savaient que penser de cela, voici que deux hommes leur apparurent vêtus d'habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles tenaient le visage baissé vers le sol. Les hommes leur dirent « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de ce qu'il vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Elles se souvinrent alors des paroles de Jésus. Oui, Jésus avait dit qu'il ressusciterait. Jésus est ressuscité. Alors que font ces femmes ? Elles partent vite l'annoncer aux disciples de Jésus. Verset 9. À leur retour du tombeau, elles annoncèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Celles qui racontèrent cela aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie la mère de Jacques et les autres femmes qui étaient avec elle. Jésus ressuscité, il est vivant ! Et comment réagissent les apôtres à cette formidable nouvelle ? Verset 11. Ils prirent ces discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Les apôtres, le cercle rapproché des disciples de Jésus, ont suivi Jésus pendant 3 ans, la durée de son ministère terrestre. Tout comme les femmes, les apôtres avaient entendu ce que Jésus avait annoncé. Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et Jésus a effectivement été livré entre les mains des pécheurs. Et il a été crucifié, tout comme Jésus l'avait annoncé. Tout cela, les apôtres l'ont constaté de leurs propres yeux. Pourtant, le troisième jour, qui correspond au terme que Jésus avait fixé pour sa résurrection, lorsque des femmes arrivent et annoncent « Jésus est ressuscité », les apôtres considèrent cette annonce de la résurrection de Jésus comme une absurdité. Le mot grec qui a été traduit par absurdité dans cet évangile peut également être traduit par rêverie ou conte. Contrairement au modèle que leur avait laissé Jésus, les apôtres retombent vite dans leurs préjugés machistes et n'accordent aucun crédit au témoignage de ces femmes. C'est triste, mais j'ai réalisé que dans notre propre culture, nous avons aussi ça. Il y a cette expression bien française, c'est un conte de bonne femme. Expression méprisante par laquelle on indique qu'il ne faut accorder aucun crédit à l'histoire que l'on nous rapporte. Il faudrait être bien crédule pour croire à un conte de bonne femme. Mais les apôtres ne sont pas crédules. Ils prirent ces discours pour des absurdités. Ils ne crurent pas ces femmes. Cette incrédulité n'est cependant pas absolue chez tous les apôtres, au verset 12. Cependant, Pierre se leva et courut au tombeau. Il se baissa et vit les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Pierre ne considère donc pas que la résurrection de Jésus soit une absurdité, mais malgré tout, il ne parvient pas à y croire. Pierre est juste étonné par ce qui arrive. Nous avons ici une illustration de notre difficulté à croire en ce qui est surnaturel. Et c'est normal. L'univers a été créé par Dieu et fonctionne de façon ordonnée, selon les caractéristiques que Dieu lui-même a assignées à chaque chose. On appelle cela les lois naturelles. Et comme Dieu n'intervient pas souvent de façon surnaturelle, il est normal que notre première réaction soit de douter s'il se produit un événement qui, à première vue, ne semble pas être naturel. Mais ce qui est curieux de la part des apôtres, c'est qu'ils viennent de passer 3 années à suivre Jésus et qu'ils ont assisté à des centaines, peut-être même à des milliers de miracles. Contrairement à nous, ils ont donc l'habitude de voir Dieu intervenir dans sa création de façon surnaturelle. Pourtant, lorsque ces femmes viennent annoncer que Jésus est ressuscité, conformément à ce que Jésus avait annoncé, ils n'y croient pas. Tous nous avons tendance à mettre des limites aux miracles que Dieu peut accomplir. Pour certains d'entre nous, les miracles de Dieu se limitent à provoquer des concours de circonstances extraordinaires, comme par exemple provoquer la chute de grêlons énormes qui vont tuer les ennemis de Dieu, mais qui vont épargner le peuple de Dieu situé à quelques centaines de mètres seulement. Pour d'autres, Dieu, pour faire des miracles, utilise ou amplifie parfois les lois naturelles pour susciter, par exemple, une guérison là où la médecine se semblait impuissante. Pour d'autres encore, les miracles de Dieu n'existent pas vraiment. Ce sont les hommes qui appellent miracles les phénomènes que leur intelligence ne parvient pas à expliquer. Plus l'homme est savant, moins il y a de place aux miracles de Dieu. On peut aussi limiter les interventions de Dieu en pensant que Dieu doit agir d'une autre manière que ce qui aurait dû être fait. Ainsi, pour certains, si Jésus était vraiment le Fils de Dieu, jamais Dieu n'aurait dû permettre qu'il meure. Donc, puisqu'il est impossible qu'il meure, il est aussi également impossible qu'il ressuscite. Et nous, qu'en pensons-nous? Posons-nous personnellement la question, mettons-nous des limites aux miracles que Dieu peut accomplir? Selon les limites que nous mettrons aux miracles de Dieu, nous serons en situation d'accepter, de douter ou bien de refuser la résurrection de Jésus. Les apôtres eux-mêmes ont placé un cadre aux miracles que Dieu pouvait accomplir et la résurrection de Jésus ne s'inscrit pas dans ce cadre. Ils refusent donc d'y croire. Les apôtres ne croyaient pas que Jésus soit vivant. Cela nous montre au moins une chose. Ils étaient absolument convaincus que Jésus était vraiment mort. Ils en étaient convaincus à juste titre, car il est impossible à un crucifié de simuler la mort. Un crucifié parvient à survivre tant qu'il a encore des capacités à prendre appui sur ses jambes. S'il s'affaisse, soit parce qu'il est trop affaibli, soit parce qu'on lui a brisé les jambes, il se retrouve suspendu par ses bras en croix. Et il meurt asphyxié en quelques minutes ou quelques dizaines de minutes pour les plus résistants. Et Jésus, ils l'ont vu de leurs propres yeux est resté suffisamment longtemps inanimé sur la croix, suspendu par les bras, pour qu'il n'ait absolument plus aucune chance d'être encore en vie. Jésus est donc mort, et cela ne fait aucun doute pour eux. Alors comment croire que puisque Jésus est vraiment mort, Jésus puisse être vraiment revenu à la vie? Fixer des limites à la puissance et aux interventions de Dieu dans notre monde est une erreur. Nous oublions que l'univers tout entier a été créé par Dieu. La Bible nous dit même que la création ne subsiste que parce que Jésus la maintient à l'existence. Sans Dieu, rien ne pourrait exister et rien ne pourrait continuer à exister. Si jamais nous croyons qu'il existe un Dieu créateur et tout-puissant, alors nous ne disposons d'aucune raison rationnelle de limiter les miracles de Dieu et de rejeter la résurrection de Jésus. Jésus est vraiment ressuscité. Revenons à notre texte, page 75, au verset 13. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, ça représente environ 12 kilomètres. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. D'autres traductions mettent « leurs yeux étaient incapables de le reconnaître ». Ses disciples aussi, à cause de leurs propres limites, sont incapables de reconnaître Jésus lorsque Jésus se présente vivant à eux. Jésus leur dit « De quoi parlez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, du nom de Cléopas, lui répondit « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?»« Quoi ?» leur dit-il. Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il était vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Les disciples justifient leur incrédulité par le fait que les apôtres n'ont pas vu Jésus. D'ailleurs, on dit « on ne croit que ce que l'on voit ». Mais en matière de foi, c'est plus souvent l'inverse qui se produit. Nous sommes incapables de voir parce que nous refusons de croire. Les disciples refusent de croire en la résurrection de Jésus, et bien que Jésus ait croisé leur route, ils ne leur reconnaissent pas, ils en sont incapables. Prions pour que Dieu nous débarrasse de nos préjugés qui nous empêchent de reconnaître Jésus lorsque Jésus vient à notre rencontre. Verset 25. Alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ? Puis, en commençant par les écrits de Moïse et continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Alors, il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous ?» lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Ils se levèrent à l'heure même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les 11 et les autres qui étaient rassemblés, et qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon !» Alors, les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompaient le pain. Cette fois, ça y est. Les disciples ne sont plus dans le doute ou l'étonnement. Les disciples savent que Jésus est réellement ressuscité. Et ils en parlent, et ils en parlent encore entre eux, et ils en parlent tellement, verset 36, ils parlaient encore quand Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Alors, imaginez la scène. Les disciples sont en train de se dire les uns les autres « Jésus est vraiment ressuscité, il est vivant, c'est formidable !» Jésus apparaît au milieu d'eux, et quelle est la réaction des disciples? L'explosion de joie! Non. Verset 37. Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Je dis, si un jour on fait un film, j'aimerais bien pouvoir voir ce passage-là. Surprenante leur réaction quand même. Puisque les disciples venaient de reconnaître que Jésus était réellement ressuscité, leur réaction aurait dû, en toute logique, être la joie. Mais cela n'a pas été le cas. Les disciples sont encore partagés dans leurs convictions et ils sont encore les victimes de leurs faux raisonnements. Et nous voyons alors tout l'amour et toute la pédagogie que Jésus utilise pour aider ses disciples à croire véritablement en lui. Tout d'abord, Jésus les amène à prendre conscience de leurs faux raisonnements qui les empêchent de croire en sa résurrection. Pourquoi croyez-vous cela? Verset 38, Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans votre cœur ?» Parfois, nous pensons que nous avons de bonnes raisons pour ne pas croire en Jésus. Mais si nous cherchons ces bonnes raisons, nous découvrons qu'elles n'existent pas. Il n'y a pas de raison. En nous questionnant, Jésus nous aide à prendre conscience que ce sont nos préjugés, mais pas notre raison, qui nous empêchent de croire en lui. Pourquoi ne crois-tu pas en moi? Peux-tu me dire, et sais-tu toi-même, quelles sont tes raisons? Pourquoi ne crois-tu pas que je suis vivant et que je suis ressuscité et que je viens à ta rencontre? Quelles sont tes raisons et dis-les-moi afin que je t'aide à croire en moi. Jésus ne se contente pas d'aider ses disciples à prendre conscience qu'ils n'ont aucune raison de ne pas croire en lui. Les disciples croient voir un fantôme, un esprit. Eh bien, Jésus va leur prouver qu'il n'est pas un fantôme, mais qu'il est bien ressuscité avec un corps physique, matériel. Verset 39. « Regardez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi et regardez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Cependant, dans leur joie, ils ne croyaient pas encore et ils étaient dans l'étonnement. D'autres traduisent ce verset par « Ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. » Curieusement, c'est leur joie qui empêche les disciples de croire pleinement à la résurrection de Jésus. Vous connaissez cette autre expression « C'est trop beau pour être vrai ». Cette expression populaire correspond à une crainte bien humaine. Nous avons de la difficulté à croire qu'il puisse nous arriver quelque chose d'absolument bon ou beau pour nous. Ce n'est pas possible. C'est trop beau. Peut-être y a-t-il parmi nous des personnes qui ne parviennent pas à croire qu'un mort puisse ressusciter. Ce serait trop beau pour être vrai. Et pourtant si, c'est bien vrai. Jésus est ressuscité et tous ceux qui ont foi en lui ressusciteront eux aussi. En raison de la joie que provoque la résurrection de Jésus, les disciples ne parviennent pas à croire totalement. Ils restent étonnés et Jésus, une nouvelle fois, va leur venir en aide. Suite du verset 41. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé et un rayon de miel. Il en prit et mangea devant eux. Jésus est tout puissant. Jésus n'a pas besoin que les hommes lui procurent de la nourriture ou quoi que ce soit d'autre. Mais Jésus, afin de leur montrer qu'il n'est pas un esprit, va devant eux manger les mêmes aliments qu'eux, de façon à les rassurer. Vous savez, c'est comme dans les dessins animés, vous voyez un petit fantôme, tout le monde croit qu'il est réel, et quand il commence à manger, les choses passent à travers. Et là, les gens, ah, il n'était pas réel. Eh bien, Jésus, devant eux, mange les mêmes aliments afin de les rassurer et de leur montrer que Jésus est bien vivant. Verset 44, puis Jésus leur dit, c'est ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il ouvrit leur intelligence afin qu'ils comprennent les Écritures. Jésus leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent ce que la parole de Dieu révélait sur la mort et sur la résurrection de Jésus. Parce que notre intelligence est parfois fermée à toute ouverture spirituelle. Cela ne signifie pas que nous manquions d'intelligence. Cela n'a rien à voir. Cela signifie que nous pouvons malheureusement fermer notre intelligence, grande ou petite. Nous pouvons la fermer de façon à laisser Dieu en dehors de toutes nos réflexions. Sommes-nous des gens ouverts et prêts à voir, entendre, recevoir ce que Dieu veut nous révéler, ou bien avons-nous fermé notre intelligence à toute ouverture spirituelle? Si jamais nous sommes fermés, prions pour que Dieu ouvre notre intelligence afin que nous comprenions et que nous recevions ce que Dieu veut nous dire personnellement au travers de sa parole. Et voici le message que Jésus voulait que ses disciples reçoivent. Verset 36. Jésus leur dit, « Ainsi, il était écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Il était écrit. Cela signifie que la mort et la résurrection de Jésus ne sont pas un accident de parcours. De toute éternité, Dieu avait prévu et Dieu avait prédit que Jésus s'offrirait en sacrifice et qu'il ressusciterait. C'est même spécialement pour cette raison que Jésus est venu. À la page 60 de ce petit évangile, il y a une phrase de Jésus qui nous dit, en Luc 19:10, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Être perdu, c'est selon la Bible connaître la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Dieu nous a donné la vie afin que nous vivions éternellement auprès de lui. C'est le plan de Dieu pour nous. Mais en cours de route, tous, sans exception, nous avons détourné notre cœur de Dieu. La Bible appelle cela le péché. Et la conséquence du péché, c'est la mort éternelle. Parce que nous nous sommes tous détournés de Dieu, nous sommes tous pécheurs, et nous sommes donc tous perdus. Mais heureusement, il était écrit que Jésus viendrait chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais comment Jésus pourrait-il nous sauver? il était écrit que le Christ souffrirait. Jésus était innocent de tout péché, et donc il ne devait pas connaître la mort. Mais Jésus, pour nous sauver, a accepté d'assumer à notre place la conséquence de notre péché. Jésus a offert sa propre vie en échange de la nôtre. Et parce que Jésus s'est offert à notre place, alors il était écrit que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés, seraient annoncés. Jésus a accepté de mourir à notre place afin que nos péchés soient pardonnés. Mais pour recevoir le pardon de nos péchés et ainsi obtenir la vie éternelle, nous devons d'abord passer par la repentance. La repentance, c'est le changement de mentalité. Nous étions tous pécheurs loin de Dieu. Eh bien, nous décidons de changer de vie. Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés. Et nous décidons de tourner le dos à notre péché. Et tout cela, nous le faisons en son nom. C'est-à-dire en croyant en Jésus et en acceptant que Jésus vive dans notre cœur et en acceptant son sacrifice à la croix. Et cette repentance, ce pardon des péchés, sera prêché à toutes les nations. C'est-à-dire qu'il est proposé à chaque homme et chaque femme, quelle que soit sa situation, à tous. Ce salut en Jésus nous a été ou nous est proposé à nous tous qui sommes réunis ce matin. Acceptons-nous ce salut. Jésus est venu et s'est offert en sacrifice pour nous sauver. Mais comment savoir si le sacrifice de Jésus était suffisant pour que nos péchés soient pardonnés? Il était écrit que le Christ ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Jésus est ressuscité et la résurrection de Jésus est une excellente nouvelle pour nous. C'est une bonne nouvelle pour nous que Jésus soit ressuscité, car cela nous prouve que son sacrifice a été suffisant pour payer le prix de notre péché. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune assurance de recevoir la vie éternelle. Nous devrions même en douter, car comment Jésus, à lui tout seul, pourrait-il donner sa vie en échange de celle de millions d'hommes et de femmes pécheurs? Mais puisque Jésus est ressuscité, puisque Jésus n'est pas resté mort éternellement, cela signifie que Jésus a fini de payer notre dette à notre place. Jésus n'était pas seulement un grand homme, mais Jésus était aussi pleinement Dieu, le Dieu dont la valeur est infinie. Le sacrifice de Jésus a été suffisant pour payer le prix de notre péché, et la preuve, c'est que Jésus est ressuscité. Et si jamais nous avons accepté que Jésus meure à notre place, si jamais nous avons accepté que maintenant Jésus vive en nous, alors nous avons une ferme assurance, telle qu'il est décrit dans 2 Corinthiens 4:14. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous ferait paraître avec vous dans sa présence. Au matin de Pâques, il y a près de 2000 ans, Jésus est vraiment ressuscité. Et parce que Jésus est vivant encore aujourd'hui, nous tous qui avons reconnu Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous avons l'assurance que Dieu, qui vit déjà dans nos cœurs, nous ressuscitera également pour la vie éternelle. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Jésus est ressuscité, Jésus est vivant. Gloire à Dieu.